ភៈកតីមហេសីសេតានាងបានយាងយាត្រាមុខយល់សពព្រះស្មាបីដូច្នោះហើយនាងកន្ទុបព្រះកំសែងសោកាពំបាននឹងសែនសោយសោកាអូតធំ
Le Cambodge est un pays à l'histoire tourmentée. Ancien protectorat français, celui-ci a obtenu son indépendance à la fin de la guerre d'Indochine le 9 novembre 1953. Monarchie constitutionnelle depuis 1947 et dirigée par le roi Sihanouk, le Cambodge va devoir affronter dans les années 1967-1968 une insurrection fomentée par des rebelles communistes d'inspiration maoïste, les Khmers Rouges. Avec l'aide des États-Unis, le pouvoir cambodgien tente de résister à la révolte des Khmers. Ces derniers, bénéficiant de l'appui des Viet Cong, prennent Phnom Penh le 17 avril 1975. C'est à partir de cette période que les Khmers Rouges vont faire vivre les pires atrocités aux Cambodgiens. L'homme qui est à la tête de l'armée maoïste victorieuse a fait ses études à Paris et a très étroitement fréquenté le Parti communiste français. Il s'appelle Salot Sar, plus connu sous le nom, tristement célèbre, de Pol Pot. Julia Pontrouche mène actuellement des recherches sur l'histoire de l'immigration cambodgienne en France et plus particulièrement sur la ville de Toulouse. Elle revient avec nous sur les raisons de cette immigration et nous rappelle les dates importantes de l'histoire récente du Cambodge.
Une date très importante, donc c'est 1975, c'est l'invasion du Cambodge, la prise de pouvoir au Cambodge par les Khmers Rouges. Donc avant cette prise de pouvoir, on avait un républicain, Lon Nol, qui était au pouvoir au Cambodge. Et les Khmers Rouges l'ont donc, au bout de quelques années de guerre, chassé du pouvoir et ont, dans un premier temps, vidé Phnom Penh de ses habitants. Et c'est là qu'a commencé, pendant presque 5 ans, un régime totalitaire communiste, avec une mise en commun des biens, avec une... Ils ont complètement vidé les villes, en fait. Ils ont vidé toutes les grandes villes. Ils ont mis les Cambodgiens aux travaux forcés dans les campagnes. En les laissant... c'était un régime terrible où les gens n'avaient que très peu à manger, où ils n'avaient aucune liberté. Et donc, ça a duré presque 5 ans. Et en 79, les Vietnamiens ont... Alors d'après certains, libéré le Cambodge, pour d'autres, l'ont envahi. En tout cas, ils ont repoussé les Khmers Rouges petit à petit jusqu'à la frontière. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la principale vague de Cambodgiens a pu fuir pour beaucoup sur la frontière khmero-thaïlandaise. Et voilà, donc après, les Vietnamiens sont ont occupé le Cambodge jusqu'à 1989, donc quand même pendant 10 ans. Et pendant ces 10 années, il y a énormément de Cambodgiens qui étaient sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, qui avaient soit le statut de déplacé, soit le statut de réfugié. Et donc un certain nombre, à partir de là, ont essayé de partir en France, ou aux États-Unis, au Canada ou ailleurs.
Le Cambodge a été sous protectorat français avant toutes ces dates guerrières et violentes.
Le Cambodge a été sous protectorat français presque un siècle, donc de 1863 à 1953. Et en effet, pendant ce protectorat, alors je n'ai pas les dates précises, parce qu'en effet, je suis en train de travailler là-dessus, il y a un certain nombre de Cambodgiens qui sont venus en France. A priori, c'était des Cambodgiens de milieux favorisés, donc souvent de familles royales ou de gens riches de Phnom Penh, qui partaient avec une bourse d'études, étudier à Paris. J'en ai trouvé un certain nombre sur Toulouse, mais bon, la majorité se trouvait sur Paris, donc faire des études de médecine, souvent, ou autres, et qui, en général, repartaient vivre au Cambodge, les études terminées.
Certains Khmers Rouges, un petit peu plus tard, eux, ont fait des études en France.
Oui, en effet, on sait qu'il y a une bonne partie des Khmers Rouges qui étaient sur Paris avant de retourner au Cambodge faire cette révolution. Et donc voilà, donc il y avait un groupe à Paris, ils se sont organisés sur Paris. Le communisme Khmer Rouge est né à Paris, d'ailleurs. Et oui, il y en a beaucoup qui sont passés en France.
Ça veut dire que c'était des gens qui étaient déjà d'une classe sociale privilégiée, ceux qui venaient en France pour faire des études ?
En général, oui, à quelques exceptions près, c'était des personnes... Les Khmers Rouges, c'était pour la plupart, mis à part Pol Pot, mais la plupart des Khmers Rouges, c'était pas des enfants de paysans, c'était des fils de familles relativement aisées. Ouais.
Thank you. sur la première grosse vague d'immigration donc cambodgienne, fin des années 70, c'est ça? Qu'est-ce que ça représente et quels sont ces gens-là justement qui viennent en Europe?
Donc oui, la première vague, elle se situe entre 1975 et 1979. Donc c'est vrai que c'est pas là qu'il y en a le plus grand nombre. Il y en a certaines parties. Parce que sous les Khmers rouges, il y en a peu qui réussissent à fuir parce qu'ils étaient abattus ou ils étaient trop affaiblis. Mais entre 75 et 79, il y en a un certain nombre quand même qui arrivent en France. Et après, donc la grosse vague, elle date du début des années 80, 79, 81, 82, 83. Et voilà, donc ce sont, dans un premier temps, en fait, c'est souvent des gens qui sont à la base de classes sociales plutôt aisées, parce que déjà, c'était les premiers visés par les Khmers Rouges, donc ça a été les premiers à fuir. Il y a eu beaucoup de...
Il y a pas mal d'intellectuels qui étaient persécutés par les
Oui,
Khmers rouges.
bah, les Khmers Rouges éliminaient tous les gens qui avaient des diplômes, tous les gens qui avaient vécu en ville et tous les gens qui n'étaient pas Khmers d'origine, donc les Sino-Cambodgiens, les Vietnamiens. Il y a eu une élimination assez radicale. Donc, ce qui fait que les premiers qui sont partis arrivés en France, c'était en effet les intellectuels et beaucoup de Sino-Cambodgiens aussi. Et par la suite, après, il y a eu aussi des paysans et des personnes de milieux plus modestes qui sont arrivés.
Quelles sont leurs conditions justement d'exil et leurs conditions d'accueil ici sur le sol français?
Alors, les conditions d'exil dans l'ensemble, ils ont à peu près tous suivi le même parcours, c'est-à-dire qu'ils ont fui le Cambodge. Il y en a un certain nombre qui sont passés par le Vietnam, mais ça, je n'avais pas beaucoup d'informations là-dessus. La grosse majorité est passée par la Thaïlande. Il y avait le Haut Commissariat pour les réfugiés qui s'occupait en partie des camps qu'ils tenaient comme ils pouvaient, parce que c'est quand même les camps étaient sur le sol thaïlandais. Donc la Thaïlande n'était pas très commode à ce niveau-là, parce qu'elle voyait d'un mauvais œil tous ces Cambodgiens s'installer sur son territoire. Donc le HCR, comme il a pu, s'est occupé de ces réfugiés, qui, une fois qu'ils arrivaient à obtenir le statut de réfugiés, passaient dans un camp spécial, où là, on essayait de voir qui allait aller où. Et à partir de ça, donc ça, c'est le passage très difficile, parce qu'ils étaient dans des camps, il y avait encore une guerre entre le Vietnam et les Cambodgiens qui essayaient de repousser les Vietnamiens. Ça était un peu dans tous les coins, donc et souvent ils mettent 2 à 3 ans, une fois arrivés dans les camps, quand ils y arrivent, à partir en France. Il y en a beaucoup qui se faisaient tuer par les Vietnamiens, par les Thaïlandais, les Khmers Rouges encore, donc il y en a pas beaucoup, beaucoup finalement qui sont arrivés jusqu'au camp. Ensuite, quand ils arrivent enfin à avoir un droit d'asile en France, puisque là on s'occupe de la France, ils partaient par avion, ils étaient reçus à Paris. Dans un premier temps par un centre d'accueil, qui était un centre d'accueil provisoire où on faisait déjà des vérifications au niveau de leur santé, voir si ils étaient dans une santé convenable. On leur donnait le minimum pour manger, pour s'habiller. Et à partir de là, on essayait de voir qui allait aller où, parce qu'ils avaient un certain nombre de centres provisoires d'hébergement dans toute la France. Donc c'est à partir de Paris qu'on décidait. Quel Cambodgien allait aller dans quel centre?
Thank you.
traitement entre guillemets de faveur, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu un traitement particulier pour l'immigration cambodgienne, vu que l'histoire française avec le Cambodge, ayant été sous protectorat français, la France ayant une histoire très singulière en Indochine, est-ce qu'il y a un rapport comme ça qui s'est installé, qui est un rapport historiquement particulier?
Je pense en effet qu'il y a eu, que la France a été sensible, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la population générale, a été sensible au sort de ces personnes-là, de l'Indochine en général, hein, Cambodge, Vietnam ou Laos, parce que oui, c'est un ancien, c'est quand même des anciennes colonies et protectorats français. Donc il y a eu, on peut dire, une vague de solidarité de la part de la France en général. Quand je dis en général, ce qui est vraiment la population qui a été sensible à ces personnes-là. Et puis il y a aussi cette image, il y a une image positive en France des Asiatiques et notamment des Asiatiques du Sud-Est. Une vision de personnes très calmes, travailleuses et discrètes, ce qui fait que dans l'ensemble, ils ont été plutôt bien accueillis. Ouais.
Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu une politique qui visait moins à concentrer l'immigration dans des villes, mais plutôt on a essayé de les disperser.
Oui, en effet, hein, le but c'était d'éviter de refaire des ghettos comme on avait pu en faire avant avec d'autres populations. Donc la France a voulu absolument essayer de disperser cette population sur tout le territoire, ce qui a été relativement réussi, puisqu'il y a eu des CPH, des centres provisoires d'hébergement à peu près dans chaque département. Il y en a eu jusqu'à 60-70 dans toute la France. Et donc, il y a quand même eu une certaine concentration autour de la région parisienne, ou à Lyon, principalement. Mais dans l'ensemble, la population a été relativement dispersée.
Est-ce qu'on peut mesurer les résultats d'une telle politique?
Alors, c'est difficile de voir la part de... Je vois par exemple, moi j'ai étudié Toulouse, l'intégration elle est quand même très positive. J'ai eu des échos de Paris ou de Lyon, donc où la population est plus concentrée, où l'intégration est beaucoup plus mitigée, avec des gens qui ne parlent pas encore français, qui sont en difficulté, qui s'intègrent mal. Maintenant, sur Paris et Lyon, on a beaucoup plus de réfugiés qui sont à la base de milieux beaucoup plus aisés, donc de paysans, qui bien entendu arrivent en France, se retrouvent dans des HLM et qui sont complètement perdus. Donc quelle est la part de la dispersion et le reste dans leur intégration, je ne sais pas. Dans l'ensemble, je pense que ça a été plutôt positif de disperser. Mais je ne sais pas, ça serait un peu simple de dire que c'est que leur bonne intégration est due à ça ou au reste, je ne sais pas.
Alors justement, on va se concentrer sur Toulouse. Pourquoi Toulouse? Est-ce que Toulouse présente une particularité dans l'immigration cambodgienne?
Alors Toulouse, bon déjà tout simplement parce que je suis étudiante à Toulouse, donc forcément pour des questions pratiques, j'ai travaillé sur Toulouse, mais il s'est avéré qu'il y avait un nombre assez important de Cambodgiens à Toulouse. Bon, les chiffrer, ce n'est pas possible pour beaucoup de raisons. Ils sont, on va dire, environ un millier de Cambodgiens sur Toulouse, ce qui est quand même relativement important. Ensuite, si on classe par département, après la région parisienne, Lyon, Marseille, Toulouse fait partie des villes qui en a accueilli le plus. Il y a une autre particularité sur Toulouse qui est très intéressante, c'est l'existence avant la venue de cette vague de réfugiés, déjà d'un réseau de Cambodgiens, ceux qui étaient venus faire leurs études, qui sont pas retournés au Cambodge parce que la situation a fait qu'ils sont restés en France, et qui était une association qui était très active politiquement et qui a participé ensuite à l'accueil de ces réfugiés de façon assez active. Donc il y a cette spécificité-là qu'on retrouve à Toulouse, que je sais qu'on ne la retrouve pas n'importe où. Et donc c'est intéressant pour ça aussi.
Thank you. cette organisation-là, elle avait quel rapport avec le Cambodge et les gens qui sont restés là-bas?
Alors en fait, cette association, donc, je ne peux pas donner de date ni de choses très précises que je suis en train de travailler dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une association, l'Association Générale des Khmers à l'étranger, qui avait sa base sur Paris, qui était l'association en fait, des étudiants à l'étranger qui soutenaient le roi Sihanouk. Et également Son Sann, l'ancien premier ministre de Sihanouk. Et cette association avait une antenne à Toulouse. Et en fait, quand les Vietnamiens occupaient le Cambodge, il y a eu plusieurs factions cambodgiennes qui se sont opposées à eux. Il y avait toujours les Khmers rouges, il y avait les Cambodgiens qui étaient avec le roi Sihanouk, et il y avait les Cambodgiens qui étaient avec Son Sann, donc l'ex-premier ministre de Sihanouk républicain, qui avait monté une faction qui s'appelait le FLNPK, le Front de Libération Nationale du Peuple Khmer, et qui avec Sihanouk, avait cette association sur Paris. Et en fait, sur Toulouse, quand Sihanouk a décidé de s'allier dans un premier temps aux Khmers rouges pour chasser les Vietnamiens, à ce moment-là, Son Sann a refusé, il a refusé de s'allier aux Khmers rouges, même si c'était peut-être la seule solution pour faire partir les Vietnamiens du pays. Et l'antenne de l'association de Toulouse s'est détachée de l'association de Paris pour soutenir Son Sann contre Sihanouk, en fait, à ce moment-là. Donc là, je suis en train de retrouver des articles dans La Dépêche où ils déclarent qu'ils ont leur antenne à eux, qu'ils se séparent de Paris parce qu'ils sont contre l'idée de soutenir les Khmers rouges.
Est-ce que vous avez retrouvé des documents, par exemple des journaux faits par cette association, des communiqués ou pas?
Alors des journaux, j'en ai pas retrouvé. J'ai retrouvé un certain nombre de communiqués dans La Dépêche où ils expliquent où ils en sont politiquement. J'ai rencontré aussi, mais à ce moment-là, j'étais pas très bien informée sur l'association. Pendant ma maîtrise, j'ai rencontré le président de cette association de l'époque, donc que j'espère revoir prochainement, qui m'avait expliqué un peu son fonctionnement. Maintenant, les Cambodgiens, on peut parler avec eux un peu de tout, mais la politique, c'est délicat, donc j'ai pas posé beaucoup de questions. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment.
Fin de cette partie sur l'immigration cambodgienne à Toulouse. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette émission, toujours avec Julia Pontrouche, que je remercie ici de bien avoir accepté de répondre à mes questions.